premier chant, on a commencé par un chant de joie. On les aime bien ceux-là. Hein? Eh bien, j'aimerais te dire que si tu manques de joie, c'était le moment où tu devais saisir ta joie. Fallait pas attendre la fin du culte, parce que je reparlerai plus de la joie. C'était ces premières minutes-là où on nous a parlé de ça et il fallait sauter dessus, s'accaparer de ces paroles, louer tout ton cœur, même si c'était pas encore une réalité, parce que dans la louange, Dieu nous parle. Ensuite, on a chanté deux chants sur la bonté de Dieu. Et finalement, même le troisième chant était sur la bonté de Dieu. Et même là, si tu as l'impression que Dieu est loin de toi, c'était le moment de te rapprocher de la bonté de Dieu. Maintenant, tu as beaucoup de chance, parce que c'est mon thème ce matin, plus ou moins. Et la deuxième chance que tu as, c'est qu'on a parlé du Père, et j'aimerais qu'on parle du Père ensemble ce matin. Donc Dieu veut insister là-dessus. Je ne savais pas ce qu'ils allaient chanter comme louange, et lorsque je louais le Seigneur, je dis « Mais Seigneur, tu es tellement bon ». Tu appuies sur certaines pensées parce que, tout simplement, tu veux parler à nos cœurs de manière concrète, dans l'instant. Maintenant, tu veux te révéler à nous. La semaine passée, je vous ai parlé de, pour ceux qui étaient là, je vous ai donné l'image de l'aimant. Lorsque deux aimants se rapprochent, il arrive à un moment donné où la force d'attraction est si forte qu'ils se collent. Est-ce que vous vous souvenez de ça, pour ceux qui étaient là ? Et j'avais conclu cette prédication en disant qu'il est important de rester dans la proximité avec Dieu parce que la proximité va créer l'intimité et l'intimité va créer la révélation, va susciter, si vous voulez, la révélation. Au plus tu es proche de Dieu, au plus tu t'approches de lui, au plus il t'attire, au plus tu es attiré, au plus tu es intime avec lui, eh bien, il va te faire des confidences. Vous savez, avec votre épouse, vous avez intérêt à être intime. Parce que si vous ne l'êtes pas, elle vous regarde et elle vous dit « Toi, tu vas pas bien. Tu peux cacher des pensées à ta femme, mais en tant qu'homme, moi, je peux rien cacher à ma femme. » Elle voit comme ma démarche, elle voit mes yeux, elle voit si j'ai un... Elle sait qu'il y a un problème. C'est incroyable. Parce qu'il y a intimité. Peut-être que toi qui es moins intime avec moi, tu le verras pas. Je pourrais te cacher certaines choses. Mais avec les gens avec qui on est si proche, où il y a une vraie intimité, une vraie complicité, c'est là où on va pouvoir se livrer. C'est là où on va pouvoir se confier. C'est là où on va pouvoir tout simplement entrer dans la confidence. Et on se souvient de ce passage en Genèse où eh bien, Dieu va dire « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Je m'apprête à faire quelque chose d'incroyable au niveau de Sodome et Gomorre. Lot est dans la ville. Et il avait déjà décidé de faire ce qu'il allait faire. Mais il ne peut pas s'empêcher de penser à Abraham. Abraham est devant sa tente, et là, il regarde vers l'horizon, et il voit les anges arriver, et vous lirez les textes. Mais Dieu va lui révéler les choses. Et Abraham va pouvoir rentrer dans cette révélation. Il comprend quel est le cœur de Dieu pour la situation. Et son intercession devient efficace. Et parfois, nous, on tire dans tous les sens. On aime l'intercession ici. Hein. Moi, j'aime énormément l'intercession. Mais on est là, tous les sujets, ils passent. On visite la terre. Mais où est le cœur de Dieu? Parce que tu as entendu une vidéo sur Internet, tu tires dans ce sens-là. Et puis après, mais t'es-tu arrêté 5 minutes, comme Abraham, devant ta tente, ouvert ton cœur et dit « Seigneur, je suis là, me voici. Pourquoi veux-tu que je prie ?» Alors on va prendre ce premier passage, Matthieu 7, versets 7 à 11, ce sera notre passage de référence. Et on aime effectivement énormément ce passage. Le contexte est suivant. Jésus est dans son fameux discours sur la montagne. Voilà, il va donner beaucoup de paroles, de pensées, d'images, de paraboles. Et finalement, vous savez que lorsque Jésus parle, il y a toujours une image qui reflète une réalité spirituelle. Alors souvent, on s'arrête à celui-ci, mais on va lire ce verset, le 10 et le 11. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils? Donc là, d'un coup, Jésus switch. Il est très clair. Demander, frapper, machin, et d'un coup, il nous raconte une histoire. Il embraye sur une histoire. Et c'est là où il faut être attentif. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Souvent, on se focalise sur le demandeur. Donc les deux premiers versets, frapper, etc., etc., demander, si vous demandez, on vous donnera. Et en fait, on se focalise sur nous en disant, mais finalement, il y a une méthode dans la prière. Si je frappe, si je suis persévérant, et puis vous pouvez développer toutes sortes de prédications qui sont très bonnes et qui sont très vraies. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est la deuxième partie de l'histoire, où là, Jésus va nous révéler quelque chose, et quelque part, il nous dit, votre prière n'est pas axée sur vous, demandeur, mais sur celui qui répond. Il faut que vous connaissiez profondément celui qui est capable de répondre à votre prière. Parce que si tu es centré sur toi, tu passes à côté de l'objectif. Jésus, lui, attire notre regard ailleurs, pas sur nous, il attire notre regard sur Dieu. Mais il n'attire pas notre regard sur Dieu, l'Éternel, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le créateur. Il attire notre attention avec cette histoire sur Dieu le Père, puisqu'il nous donne une image du Père et son Fils. Si mauvais que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu, qui est parfait, éternel, peut donner de bonnes choses. Il réaxe notre regard sur Dieu le Père. Et ça, c'est un enseignement nouveau à cette époque-là. Parce que parler de Dieu comme le Père, pour les Juifs, c'est compliqué à entendre. Dans l'Ancien Testament, vous voyez un petit peu le Père, mais ce n'est pas ce qui est le plus mis en avant. Et Jésus, lui, tu peux demander, mais tu dois demander comme un enfant à son Père. Et ça, ça change la mentalité de l'époque. Ça secoue un petit peu les gens. Alors la question qu'on doit se poser, c'est avant de parler de persévérance, de rythme de prière, de façon de prier, seul, en groupe, etc., etc., les formes de la prière, toutes les formes qu'elle peut prendre, avant de se concentrer là-dessus, il faut se poser une question. Quel genre de Père est Dieu pour moi? Parce que c'est ça qui va orienter ton cœur dans une prière audible de la part de Dieu. Quel est le cœur du Père? Est-ce que je connais profondément le cœur du Père? Et ça nous interroge. Parce que finalement, la question du Père, que tu aies eu un papa, que tu aies eu un mauvais papa, que tu aies eu un bon papa, que tu n'aies pas eu de papa, ça nous parle tous. Ça a créé quelque chose en toi. Un bon papa a laissé des bonnes choses en toi. Un mauvais papa a laissé des bonnes choses en toi. Un papa absent n'a rien laissé. Il y a un manque en toi. Mais ça a impacté ton âme. Et Jésus dit, tu as besoin de venir devant Dieu comme un enfant et de connaître son cœur de Père pour toi. Donc quelque part, l'idée même que tu as du Père terrestre peut te bloquer dans tes prières et dans ton intimité avec Dieu. Et vous avez cet aimant parfois qui s'éloigne parce qu'on a une mauvaise image du Père. Et on rentre dans un système, peut-être qui est un système religieux devant Dieu, alors que Dieu dit, mais attends mon fils, viens vers moi, pourquoi tu prends toutes sortes de chemins bizarres? Donne-moi ton cœur. Mais tu ne sais pas donner ton cœur, parce qu'on ne t'a jamais appris à le faire. Vous savez, il y a même des personnes qui n'ont jamais appris à avoir des interactions sociales, parce qu'on ne leur a pas montré l'exemple. Et du coup, ça provoque que devant Dieu, ils ne savent pas comment aller devant Dieu. Voilà pourquoi on a besoin de vivre l'Église, où on a des personnes devant nous qui vont nous montrer des exemples. Parce que si tu n'as pas eu de papa, tu as besoin de voir comment on fait. Tu as besoin de comprendre comment on s'approche des gens. Récemment, dans un suivi pastoral, je disais à quelqu'un, mais tu as besoin de travailler tes interactions sociales. On peut prier pendant 10 ans, mais il faut que tu essayes, il faut que tu ailles chercher le cœur des gens, il faut que tu leur parles, parce que ça va produire des choses en toi, de bonnes choses. Mais si tu as toujours peur des mauvaises choses que ça peut produire, tu te protèges. Et après, tu viens dans la même attitude devant Dieu. Tu te protèges. Par contre, tu frappes. Tu es persévérant. Tu es présent à l'église. Tu suis tous les programmes. Mais il n'y a pas de réponse. Alors, Jésus utilise vraiment cette question de sujet le plus... pas de sujet, mais de... d'idée la plus petite à la plus importante. C'est un concept juif de raisonnement et Jésus aimait bien ça. Il va toujours nous parler que il va toujours parler du fait que si une chose est vraie dans une dimension inférieure, à combien plus forte raison elle est vraie dans une dimension supérieure. Et c'est là typiquement ce qu'il fait. Il dit, si vous, mauvais comme vous êtes, alors, lui, combien il est bon, Dieu parfait peut vous donner de bonnes choses. Si mauvais que vous êtes, vous pouvez vous donner de bonnes choses. C'est fou. On est tellement mauvais. Et le mot mauvais, ça veut dire corrompu. La trace du péché est là. Et corrompu comme on est, comment on est capable d'aimer nos enfants de manière viscérale, les parents. C'est vrai ou pas? Mais on les aime. Et pourtant, quand ils nous énervent, ah! Vous voyez les deux sphères dans notre vie, la chair et l'esprit. Et on est capable de donner bonnes choses. Même suite au péché, Dieu nous a laissé cette bonté en nous. Cette capacité d'être bon. Alors Dieu, lorsqu'il dit « si donc méchant comme vous l'êtes, il ne flatte pas l'humanité », il nous rappelle tout simplement notre condition de pécheur. Marqué par le péché, limité. Alors Dieu, en tant que papa, et il faut que tu en sois assuré ce matin, veut te donner de bonnes choses. Pose-toi la question maintenant, es-tu certain? Dans ton cœur, devant Dieu, pose-toi cette question. Est-ce que tu es assuré que ton Père céleste veut te donner de bonnes choses? Parce qu'avant de parler de forme de prière, avant de parler de quoi que ce soit de plus, si tu as un doute sur ce sujet, tu seras bloqué. Ta vie spirituelle entière sera bloquée. Parce que tu auras un filtre néfaste à ta proximité, ton intimité avec Dieu. Réfléchis. As-tu cette conviction? Vois-tu Dieu au travers du filtre du père que tu as eu? Ou de la mère? De l'autorité qu'il y avait sur toi finalement? Ou le vois-tu comme qui il est vraiment pour toi et ce qu'il veut être pour toi avec toi? Une question importante. Parce que si on ne sait pas y répondre, c'est qu'il y a déjà un travail à faire. Jésus, dans ce passage, ne fonde pas la confiance dans la puissance de Dieu, dans sa souveraineté, dans son autorité. Il fonde la confiance sur le fait que Dieu est son Père et que quoi qu'il fasse, il est avec lui. Et bien sûr qu'il sait que Dieu est puissant, mais ce n'est pas ça qui l'amène vers Dieu. C'est l'amour qu'il a envers son Père. Si tu viens seulement dans la prière avec la connaissance que Dieu est puissant, même Satan le sait, que Dieu est puissant. Ce que Jésus nous révèle, c'est que tu dois venir dans la prière avec une confiance pleine en l'amour de Dieu pour toi et en sa bonté pour ta vie. Parce qu'il veut faire de bonnes choses. Et beaucoup sont bloqués. Dieu veut-il vraiment mon bien? J'ai déjà entendu ça. Dieu veut-il? Tu vois, Alexis, je vis toutes ces choses et je ne comprends pas et j'ai touché à ça et je suis tombé. Mais Dieu veut-il vraiment mon bien? Est-ce que je mérite? Suis-je digne? Vous voyez, toutes ces questions-là, vous pouvez les effacer d'une traite quand vous considérez la bonté et l'amour de Dieu pour vous profondément. Et ça règle beaucoup de vos questionnements. Est-il réellement pour moi ce Dieu? Puis-je vraiment lui faire confiance? Est-ce que lorsque je vais m'approcher de lui, il va vraiment me répondre? Parce que si ton père charnel t'a déçu et n'a jamais tenu ses paroles, eh bien tu as du mal à avoir confiance en la parole de Dieu. Et tu dois restaurer cette intimité, cette confiance que tu as en Dieu avant de t'adresser à lui. Avant de t'appuyer sur sa puissance, avant de t'appuyer sur sa sainteté, avant de t'appuyer sur sa souveraineté. La confiance qu'il est mon Père. Amen. Alors, lorsqu'on va lire les évangiles, moi, on est souvent fasciné, vous le savez, par les miracles. Les miracles, on aime bien. Surtout dans les églises évangéliques charismatiques. J'aime bien vous piquer un peu, mais c'est vrai. On aime ça, hein? On aime les guérisons, on aime la délivrance, on aime la résurrection. On fait même, vous savez quoi? Des formations sur comment guérir, comment délivrer, etc., etc. Mais je vous le dis, parfois on se trompe vraiment. Si tu ne connais pas l'amour du Père, tu ne bénéficieras pas de ces choses-là. Je vous ai dit une fois, Jésus est notre modèle. Effectivement, nous devons faire comme lui. Effectivement, nous voulons vivre comme lui. Effectivement. Mais il aimait profondément son Père. Avant toute chose. Jésus veut pointer vers une réalité, c'est vraiment la réalité de l'amour du Père pour nous. Jésus a passé son temps à nous révéler la source. Les disciples étaient contents, ils voyaient des choses. Et toujours, il leur disait, il allait leur dire des versets, mais je ne fais rien par moi-même. À chaque fois, il disait, mais non, mais tout ça vient du Père. Vous avez lu comme moi ou j'ai mal lu? Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire du Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Jean 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même, je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Si je m'arrêtais juste là et que je faisais le contraste entre la vie de Jésus et ma vie à moi, parfois j'ai envie de faire ma volonté avec Dieu. Et je demande après si vraiment c'était la volonté de Dieu. Est-ce qu'il n'y a que moi qui suis comme ça? On est tous comme ça. Parce qu'on a nos objectifs, on veut atteindre des choses dans la vie, on veut goûter, et puis on fonce. Et si Jésus lui-même a dit, je ne fais pas ma volonté, mais je fais celle que je vois faire du Père, pourquoi nous on ferait différemment? Qui est notre modèle numéro un? C'est pas Paul, c'est pas Pierre, c'est pas Moïse, c'est pas Abraham, c'est Jésus. Il est l'être parfait ayant marché sur terre, il nous montre l'exemple. Il nous montre comment avoir une relation parfaite avec le Père, avec le Saint-Esprit et envers les gens et comment émaner de ce que Dieu met en nous. Et nous, on veut faire différemment parfois. Seigneur, ma volonté, ma façon de penser, ma façon de raisonner. On est très, dans notre pays, c'est une culture de l'autonomie, on valorise l'autonomie. Il a réussi tout ça par lui-même. Il est fort, il a étudié et puis il a réussi. Il a travaillé, il a persévéré et Dieu l'a béni. Eh bien, regardez ce que Jésus dit. Je ne fais rien de moi-même. Culture d'autonomie et Jésus, culture de la dépendance au Père. Je ne fais rien de moi-même. Qui a fait ici autant de miracles que Jésus? Ah ben mince, autant d'être là, Dieu est avec moi, hein? On est content, hein? Mais la réalité, c'est qu'on a encore un gros travail à faire. Et ce gros travail à faire, ce n'est pas dans toutes les formations de délivrance que tu feras, c'est dans ta connaissance intime du Père. C'est là que tout va commencer. Ça paraît simple, ce que je dis. Mais moi-même, quand je préparais ce message, j'ai dit, Seigneur, je dois revoir ma copie. Je dois revoir ma copie. Parce que est-ce que je suis si proche de toi que ce que je dis? Vraiment. Et là, c'est marrant, mes oreilles se sont ouvertes sur des sujets que je n'entendais pas depuis quelques mois. Et Dieu commence à parler. Alexis, regarde là, regarde là, et regarde là-bas. Et d'un coup, vous voyez, mon regard comme Abraham s'est détourné de ma tente, de mes affaires, de mes programmes, et a regardé l'horizon. Et c'est là où tu commences à avoir les plans de Dieu. Tu commences à entendre sa voix. Et tu dis, waouh, c'est différent de ce à quoi je m'attendais. Mais Dieu parle dans ton cœur à cœur avec lui. Le contraste est saisissant quand on compare les choses, la vie de Jésus. Aujourd'hui, on possède tellement plus que Jésus. Dans notre pays, comprenez bien, dans nos circonstances, il y a d'autres parties de la terre où ils ont bien moins peut-être. Mais Luc 9, 58 nous dit que le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Souvent, Chanel, elle me raconte ça. Quand je râle un peu, elle me dit « Chérie, tu te souviens de ces versets ?» Voilà, et je retourne à mes affaires. Lorsque je dois dépenser un peu trop de sous pour la voiture, parce qu'il faut faire des réparations, « Loue le Seigneur !» elle me dit. Ouais, mais il faut payer, là. J'ai pas envie de louer le Seigneur. Hein. Vous êtes comme moi ou... Vous louez le Seigneur en tout temps parce que... Hein, on doit progresser hein, ensemble. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Nous avons parfois, nous, plusieurs assurances. Plusieurs comptes en banque. Plusieurs voitures, plusieurs maisons. Des loisirs. Des enfants, une famille, tout ce que vous voulez. Des sécurités à gauche, à droite. Et parfois, on est rongé par l'inquiétude. T'as plus que Jésus. Et t'es rongé par l'inquiétude. Et moi, quand je considère ça, je dis, Seigneur, quand même. Je ne peux pas rester dans cet état-là. C'est pas possible. Ma voiture, elle est rayée. Ah, je boude. Ça va pas. Ah! Et Jésus, lui, vous savez ce qu'il nous montre? Il est dans la barque, la tempête fait rage et il pionce. Je ne sais pas s'il y en a un de vous qui serait capable de pioncer alors que tu sens vraiment le danger. Et... Moi, j'y arrive pas. Hein. Moi, je m'inquiète. En avion, je suis comme ça, dès qu'il y a une secousse. Et là, je mets ma main sur Chanel, je dis, ça va? En fait, c'est moi qui ai peur. Hein. Oh, on est exceptionnel. Jésus dort dans la barque. Voyez, il n'est pas contrôlé par les circonstances. Ce matin, on a chanté qu'il faut être dans la joie. Peut-être, je ne sais pas pourquoi, peut-être que tu as perdu la joie du Seigneur ce matin. Et Seigneur, il t'a encouragé, mais reste dans la joie. Retrouve ta joie. Peut-être que tu as subi une injustice, j'en sais rien. Tu as l'impression que Dieu est loin. Dieu te dit, mais je suis bon avec toi. La barque tremble un peu, mais le moment venu, je vais me lever pour toi et je vais éteindre l'incendie. Je vais calmer la tempête. Ça, c'est notre Dieu. Il est bon avec nous. Mais il faut que j'en sois assuré. Parce qu'au moment où je manque d'assurance en la bonté de Dieu, les doutes, les craintes, l'anxiété, la dépression, les burn-out, tout ce que vous voulez, ça rentre dans ta vie. Et ça te prive, ça t'éloigne de ta proximité avec Dieu. Au lieu d'être collé, tu t'éloignes. Tu es toujours à l'église, tu loues toujours le Seigneur, tu es toujours dans l'activité, tu lis ta Bible, peut-être que tu suis ton programme, mais tu es loin du Seigneur. Tu es proche, mais tu n'es pas intime. Mais lorsqu'il y a une crainte qui arrive dans ton cœur, tu dis, Seigneur, regarde ma crainte. Et là, il te rassure, garde ma joie, je suis avec toi. Et tu repars. Et tu affrontes la tempête. Jésus n'a jamais fui. Vous vous souvenez de cette histoire? Luc 4, verset 30. On cherche à le jeter de la falaise parce qu'on n'aime pas ses enseignements. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Moi, quand je lis ce verset, ça me sidère. Ils sont venus, ils veulent lui faire du mal. Et Jésus, s'inquiète pas. Le Père est avec moi, le temps n'est pas venu. Et il marche. Moi, si j'apprends qu'on veut me jeter de la falaise, il n'y a plus de monsieur le pasteur, là. Hein, il y a Alexis qui a peur. Vous comprenez ce que je veux dire? On vit tous la même chose. Les autorités religieuses ont comploté contre lui. Il continue son ministère. Il n'abandonne pas. Lazare meurt, il ne court pas immédiatement, il attend, il rentre dans les plans du Père. Il connaît la pensée de Dieu. Il ne s'excite pas, Jésus. Vous voyez, quand vous pensez à nos vies, on est toujours très actif. Jésus ne s'excite jamais. Il ne subit pas la pression comme nous, on l'a subi. Parce qu'il est attaché à nouveau, pas à la puissance de Dieu, pas à sa sainteté, pas à sa souveraineté, à l'amour de son Père. Il sait que son Père est avec lui. Vous savez, quand vous avez un enfant... Et que l'enfant est loin de vous, quand il est tout petit, il a des craintes. Et lorsque vous rentrez dans la pièce, il se sent mieux. Vous n'avez rien fait, hein? Juste votre présence, la présence du Père te rassure. La présence du Père te sécurise. Et lorsque tu es profondément, toi, sécurisé par Dieu, par Christ, dans ton cœur, mais très peu de choses peuvent te bouleverser. Réellement. Et vous avez déjà dû vivre ces situations où vous ne comprenez pas votre réaction. La situation, habituellement, elle vous aurait complètement retourné. Moi, je me souviens d'une situation avec Chanel. On est là et puis je garde la voiture le soir, je sors le matin, je regarde et je ne trouve pas la voiture. Et je dis à Chanel, et je devais prêcher ici, c'était un dimanche matin, et je regarde à gauche, je regarde à droite, et comme je suis un peu tête en l'air, je perds mes affaires, je me dis, est-ce que ce n'est pas un souvenir d'avoir garé la voiture d'un autre jour et que finalement je l'ai garé ailleurs, ouais, je commence à douter de moi-même. Et puis, Chanel, viens ici, toi tu es plus sérieuse que moi, où est-ce qu'on s'est garé hier? Elle me dit, et là elle regarde, elle se met à pleurer. C'est pas possible. Et là, moi je sais pas, j'avais une paix exceptionnelle à ce moment-là. Chérie, c'est pas grave, on prend le téléphone, quelqu'un va venir nous chercher, Dieu s'occupera de nos affaires, une chose de moins à s'occuper aujourd'hui, on ne devra pas conduire jusqu'à l'église. Mais une telle paix, et vous avez déjà vécu ça à des moments dans votre vie, peut-être face à la maladie, peut-être face à un manque financier, peut-être face à ces situations, vous voyez, où humainement vous n'avez pas réagi avec votre chair. Souvenez-vous de ça. Dans l'Ancien Testament, on a passé notre temps à faire des autels à l'Éternel par rapport à ce qu'il faisait pour avoir en mémoire ce qu'il avait opéré dans nos vies. On doit faire la même chose dans nos cœurs. Seigneur, je me souviens de telle date. Comment je me suis senti avec toi? Tu as agi et j'oublierai jamais ce moment-là parce que tu as prouvé ta bonté envers moi et j'oublierai jamais ta bonté, ta fidélité. Et là, il t'arrive encore quelque chose, ta chair tremble et tu te souviens de ce qu'il a fait avant. Mais si tu passes événement après événement, tu veux juste sentir la gloire de Dieu, le feu de Dieu, voir les miracles, tu retombes dans tes sentiments, dans tes problèmes et finalement tu ne vois pas grand-chose. Mais Dieu fait des choses dans ta vie. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu a été bon avec toi à un moment donné ou à un autre. Et j'aimerais te ramener à cette bonté-là. Souviens-toi, s'il te plaît, de toutes les petites choses qu'il a fait pour toi, à un instant, à un moment. Et tu dis, Seigneur, merci, parce que tu vois mon état maintenant. Et je sais que tu agiras encore. Et je m'attache à mon amour pour toi. C'est plus important que toute autre chose. Amen. Amen. Oh là là, j'ai chaud. C'est pas possible. Hein. Des fois, on a froid ici, des fois, on a chaud. Ah. Jésus à Gethsémané, Luc 22, 42, il a dit quoi face à ses peurs, à ses craintes? À nouveau, il est notre modèle. Voyez-vous, Souvent, on est face à ces versets-là et on dit, mais moi, je ne suis pas Jésus. On est d'accord, hein, on n'est pas Jésus, sauf que tu as Jésus en toi. Tu as une part de Jésus en toi. Ça veut dire que, tu vois, quand tu lis ces versets-là dans la détresse, c'est des versets qui doivent t'aimanter comme ça, ils doivent t'attirer. Parce que quand tu justifies, mais moi, je ne suis pas Jésus, ça veut dire que quelque part en toi, tu acceptes ton état. Et tu dis, de toute façon, je ne suis pas bien, je ne resterai pas bien. Et tu boudes. Vous vous souvenez d'Élie qui boude dans la caverne? Des fois, on est des Élie. Parfois, on est des Jonas. On part. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Il comprend profondément la volonté du Père. Il sait ce qu'il doit faire. Il connaît le cœur de son papa. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. C'est dur, hein? On aime l'évangile paillette. L'évangile qui fait du bien. Mais je peux vous dire que la bonté de Dieu dans votre intimité vaut mieux que tous les cultes que vous pouvez vivre. Que tous les rassemblements que vous pouvez faire. Quand vous êtes seul avec votre Père et que vous considérez son amour, que vous êtes imprégné de sa présence, que vous sentez que l'aimant, il s'approche et là vous vivez quelque chose d'exceptionnel. Peu importe la forme, je ne parle pas de la forme. Peut-être tu vas louer le Seigneur, peut-être tu vas... J'en sais rien ce que tu feras. Ta personnalité, Dieu la connaît. Et quand on a cette question, Jésus, avant même, vous vous souvenez, lors de son baptême, Dieu va parler et il va dire, voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire que l'amour précède le ministère. L'amour précède le service. L'amour précède les miracles. L'amour précède tout. Jésus n'avait encore rien accompli. Et Dieu lui dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et dans cet amour, on va faire des choses maintenant. Au travers de cet amour, on va agir. Mais avant tout, je t'aime. Waouh ! Te sens-tu aimé de Dieu ? Profondément. Fais une pause dans ta vie. Arrête-toi. Regarde l'horizon. Prends une heure, une journée. Prends même un congé, un RTT. On aime bien les RTT en France. Et pose-toi juste cette question-là. Seigneur, vraiment, est-ce que mon amour pour toi est égal à celui que tu m'as donné ? Est-ce que réellement je considère cet amour ? Est-ce que je l'accepte profondément ? Est-ce que je le reçois ? Parce qu'avant de me mettre en action, je veux être sûr de cette chose-là. Parce que sinon, je ne serai pas bénissant. Et je veux être bénissant. Et c'est bon de se poser cette question-là avant de faire quoi que ce soit. Jésus a dit, lorsqu'il nous a appris à prier, il n'a pas commencé en nous disant, vous savez, lorsque vous devez prier, vous commencez votre prière en disant, Seigneur Tout-Puissant, juge de la terre et des nations, roi de l'univers. Il nous dit, notre Père. Première chose, mon Père, je viens devant Dieu, devant mon Père. Et ensuite, il y a tout ce qui découle. Ton Père est puissant, ton Père est glorieux, etc., etc. Et on peut citer ça toute la semaine si on voulait. Et on n'aurait pas le temps. On ne saurait pas tout dire. Mais d'abord, mon Père, ma relation d'abord, mon amour d'abord. Et ensuite, voilà ma situation. Comble mon cœur. Donne-moi la force si je dois affronter cette situation, si tu ne l'éloignes pas de moi. Parce que tu sais, des fois, il y a des montagnes que ta foi, parce que tu réfléchis. Hein. Quand tu as une montagne, tu dis, Seigneur, t'as dit, si tu as un peu de foi, tu vas la déplacer, tu es motivé dans ta prière, tu combats, tu intercèdes, tu frappes le sol, tu roules par terre, tu vas bouger cette situation parce que tu es un Dieu juste, et nanani, et nanana, tu plaides ta cause. Et des fois, Dieu dit, écoute, je vais faire de toi un alpiniste maintenant, monte. Mais si tu n'entends pas ça, bah, tu restes en bas et la situation n'avance pas. Et parfois, Dieu va dire, oui, c'est maintenant que tu dois exercer la foi. On va bouger cette montagne. Mais tu dois entendre ce qu'il te dit. Parce que systématiquement, il ne fera pas la même chose. Ça marche ? T'es avec moi ? Alors, le Père nous donne profondément une chose qui est intéressante. Et vous allez voir dans Luc, le verset parallèle. Il nous dit, votre Père, Luc 11, verset 13. Donc, on va prendre le Luc. On était dans Matthieu, dans le verset parallèle en Luc. Il nous est dit, si donc, mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers, quoi ? Le Saint-Esprit. Donc si tu pries pour une nouvelle voiture, peut-être. Si tu pries pour un nouveau boulot, très bien. Mais Dieu dit, je vais te donner de bonnes choses. Le Saint-Esprit, en fait, je me donne à toi. C'est la meilleure chose que je puisse te donner. Me donnant à toi, tu auras tout ce dont tu as besoin. Moi, mes enfants, ils viennent souvent me demander des choses. « Papa, est-ce que tu peux m'acheter ceci, cela ?» Et des fois, je dois dire non, parce que ce n'est pas bon pour eux. Et bien, Dieu, il dit, « Ok, si tu vis avec moi, si tu reçois mon esprit profondément, l'esprit de Christ va vivre en toi. Vivant en toi, c'est tout ce que tu peux avoir de mieux sur cette terre. C'est le plus beau cadeau que Dieu t'ait fait en tant qu'enfant de Dieu. » Et la Bible nous dit qu'il nous a donné un esprit d'adoption. Nous sommes maintenant ses fils et ses filles. On doit revenir à notre relation filiale. Si on ne revient pas à cette relation filiale, on devient des religieux évangéliques ou tout ce que vous voulez, à proclamer toutes sortes de choses sans vivre la profondeur de ce que Jésus a lui-même vécu et veut pour nous. Une relation profonde avec son Père. Un amour reçu et partagé. Le don de soi. La capacité à s'oublier soi-même pour les autres. Tout l'inverse de ce que nous propose notre société.